Vous écoutez, on lit pour vous.
La philanthropie s'apprend aussi sur les bancs d'école, selon une étude. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 4 février 2026 dans Le Devoir. L'école peut être un vecteur essentiel pour développer l'empathie et la culture du don, révèle une étude réalisée par des chercheurs de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. L'apprentissage de l'altruisme pourrait ainsi être un moyen d'augmenter l'engagement philanthropique des Québécois qui accusent un large retard sur les autres Canadiens à ce chapitre. Réalisée à la demande de la Fondation Famille Léger, l'étude visait à déterminer comment la participation à des programmes éducatifs destinés à développer le sens de l'empathie et de l'altruisme, comme le bénévolat, peut influencer plus tard les comportements de don. L'analyse, qui se fonde sur des données quantitatives et qualitatives, utilise notamment un vaste sondage réalisé auprès de 5461 répondants du Québec, du reste du Canada et de la France. Selon ces données, les adultes qui ont vécu enfant une expérience d'apprentissage social marquante déclare en moyenne 90% plus de gestes de don au cours des 12 derniers mois que les autres. Le comportement du don ne dépend pas seulement de facteurs sociodémographiques comme le revenu, indique Abdelouahab Mekiberada, doyen de l'École de gestion de l'université et co-auteur de l'étude. Les facteurs psychologiques, comme l'empathie, l'altruisme et l'attitude face aux inégalités jouent aussi un rôle primordial. Autant de facteurs qui peuvent être développés en bas âge, selon M. Mekiberada. Être généreux, ça s'apprend. Les parents jouent un rôle très, très important, mais l'école a aussi un rôle extraordinaire. Les auteurs de l'étude le décrivent comme une sorte de cercle vertueux. La participation à des programmes éducatifs prosociaux renforce l'empathie des jeunes, qui alimente, elle, une motivation altruiste qui favorise des attitudes favorables envers les personnes vulnérables et les organismes caritatifs. En résulte, une probabilité de plus élevée de poser des gestes de don, en argent, mais aussi en temps et en gestes, à l'âge adulte. L'étude cite en exemple des programmes qui combinent expérimentation, réflexion et action concrète dans la communauté, comme l'École de la générosité en France. Cette initiative fait la promotion de l'éducation à la générosité en mettant en relation des élèves du primaire et des associations caritatives. Les programmes qui permettent à l'enfant d'agir, d'évaluer et de voir le changement qu'il apporte sont ceux qui marquent le plus et qui l'amènent à faire évoluer son comportement, explique M. Mekiberada. Ces programmes sont malheureusement trop rares au Québec, selon lui, si on compare avec ce qui se fait ailleurs au pays et en France. Il y a des initiatives, mais rien de structuré. Chaque enseignant fait ça à sa manière. Paradoxe québécois. Voilà peut-être une piste qui expliquerait l'écart entre le Québec et le Canada au chapitre des dons. Selon les données de Statistique Canada citées dans l'étude, même si le Québec représente environ 22% de la population canadienne, il ne fournit que 11% de la valeur totale des dons au pays. Le don annuel médian est également beaucoup plus faible au Québec, 150 $, que dans l'ensemble du Canada, 380 $, même si les Québécois ont un revenu médian comparable, voire légèrement plus élevé que la moyenne nationale. Pourtant, l'engagement communautaire et le bénévolat dans la province sont comparables, voire supérieurs à la moyenne canadienne. Ce n'est pas une question de solidarité, mais plutôt une façon différente de l'exprimer, estime Abdelouahab Mekiberada. Selon le professeur, le Québec aurait tout intérêt à développer une culture philanthropique plus vaste via le système éducatif. L'idée n'est pas d'imposer notre vision, mais de voir comment on peut soutenir les programmes qui veulent faire de leurs étudiants des citoyens capables de comprendre la société, de la critiquer et de s'engager. C'était « La philanthropie s'apprend aussi sur les bancs de l'école selon une étude », un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 4 février 2026 dans Le Devoir.
Un angle mort aux conséquences planétaires. Un texte d'Éric Pierre Champagne, paru le 5 mars 2026 dans La Presse. La très grande majorité des évaluations scientifiques ont sous-estimé le niveau d'élévation des océans, conclut une étude parue mercredi dans la revue Nature. Conséquence, des millions de gens vivent dans des zones plus à risque qu'ils ne le croient. La montée des eaux provoquée par le réchauffement planétaire pourrait-elle se produire plus rapidement que prévu? La hausse du niveau des océans est-elle beaucoup plus élevée que prévu? À l'échelle planétaire, le niveau de la mer le long des côtes est en moyenne 37 % plus élevé que les estimations actuelles, ont calculé les chercheurs Katharina Seeger et Philip Minderhout dans leur étude parue dans la revue Nature. On parle tout de même d'un écart considérable, non? Tout à fait. Le niveau des océans est en moyenne de 20 à 30 cm plus élevé que les relevés officiels. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est ou encore dans l'océan Indien, le niveau de l'eau est en réalité de 1 à 1,5 mètres plus élevé que ce que l'on croyait. Comment les scientifiques expliquent-ils une telle erreur d'évaluation? D'entrée de jeu, les auteurs signalent que la vaste majorité des analyses n'étaient pas erronées. Le problème vient plutôt du fait qu'elles utilisaient une méthodologie qui s'est avérée moins précise que prévu pour évaluer la hausse du niveau des océans. En résumé, le point de référence employé pour évaluer la hausse des océans a faussé les données. La très grande majorité des analyses scientifiques recourait en effet au modèle du géoïde, c'est-à-dire qu'on estimait la ligne des eaux en se fiant au niveau des terres grâce à des données obtenues avec des observations par satellite. On utilisait donc ce modèle pour mesurer à quelle altitude se trouvent les terres au niveau de la mer, tout en supposant que ce niveau correspondait également au niveau réel de la mer. L'hypothèse la plus courante est que le géoïde, qui est un modèle global de la gravité terrestre, représente le niveau réel de la mer. L'altitude des terres est alors souvent établie à partir de ce modèle. Mais le problème, c'est que l'océan n'est jamais vraiment au repos, a expliqué Katharina Seeger au moment du dévoilement de l'étude. L'explication principale tient au fait que la surface des océans n'est pas un miroir plat. On a donc cru, à tort, que l'altitude zéro sur Terre correspondait au niveau des océans. En analysant près de 400 études sur le niveau des océans, les scientifiques ont d'ailleurs conclu que plus de 90 % des analyses utilisaient ce modèle de mesure d'élévation du terrain, Land Elevation Measurements. Est-ce qu'on sait pourquoi les scientifiques se fiaient à ce modèle pour estimer la hausse du niveau des océans? Oui, D'abord, il semble que l'abondance de données satellites pour mesurer le point de référence du géoïde permettait aux scientifiques de bâtir assez facilement des modèles pour évaluer la hausse du niveau des océans. Philip Minderhood, co-auteur de l'étude parue dans Nature, parle également d'un angle mort qui a été sous-estimé. Nous semblons être face à un angle mort interdisciplinaire entre la science du niveau de la mer d'un côté et la science des impacts des risques côtiers de l'autre, a-t-il souligné. Quelles seront les conséquences concrètes de cette nouvelle évaluation de la hausse du niveau des océans? Concrètement, cela signifie que des millions de gens vivent dans des zones beaucoup plus vulnérables qu'ils le croyaient. Dans l'éventualité d'une élévation future du niveau des océans de 1 mètre, les auteurs de l'étude ont calculé que 132 millions de personnes supplémentaires devraient être déplacées. Ce sont principalement les populations les plus pauvres de la planète qui seraient affectées, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde et Afrique de l'Est. Nous pensions avoir une marge de sécurité, buffer, une certaine quantité de temps et d'espace vertical pour adapter nos infrastructures. Mais parce que le point de départ, le niveau réel de la mer, est plus haut que les modèles que nous utilisons, cette marge est beaucoup plus petite que ce que nous avions prévu, ou à certains endroits, elle a déjà disparu, a déclaré Philip Minderhood en conférence de presse. La montée des océans provoquée par le réchauffement planétaire pourrait donc se produire plus vite que prévu? Les auteurs se défendent d'avoir réalisé une étude sur l'élévation du niveau de la mer. Ils précisent que leurs conclusions ne modifient en rien les prévisions sur les hausses futures du niveau des océans ou la rapidité à laquelle ce phénomène se produira. Mais si la tendance se maintient, la hausse du niveau des océans se produira plus rapidement du simple fait que le niveau de la mer est déjà au moins de 20 à 30 cm plus élevé qu'on le croyait. Nous sommes fondamentalement en train de perdre du temps. Si le niveau de la mer est déjà 30 cm plus haut aujourd'hui que ce qui figure dans votre modèle de planification, vous atteignez les niveaux de danger de 2050 bien plus tôt que prévu. Soutient Philip Minderhood. C'était un angle mort aux conséquences planétaires. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 5 mars 2026 dans La Presse.
Pensez les derniers jours. Un texte de Caroline Samy Esfahani, publié dans l'actualité, édition de septembre 2025. En sous-titre, un nouveau métier émerge au Canada, accompagnante de fin de vie. Un signe des défis de notre époque? Tana Doula, T-H-A-N-A-D-O-U-L-A. Cette profession consacrée au soutien en fin de vie, encore peu connue au Québec, est appelée à se déployer avec l'intérêt grandissant pour l'aide médicale à mourir. De la même façon que de futurs parents font appel à une accompagnante à la naissance, ou doula, pour se préparer à accueillir leur enfant, les gens qui doivent affronter la mort d'un proche peuvent désormais trouver soutien logistique et réconfort auprès d'une accompagnante de fin de vie, une Tana Doula. Un mot d'origine grecque, Thanatos signifiant mort et doula servante. Ce rôle, auparavant joué par une tante, une sœur ou une amie, est en voie de se professionnaliser. Le Collège Douglas en Colombie-Britannique a été le premier établissement au Canada à offrir la formation en 2016, suivi plus récemment par l'Université Laurentienne en Ontario, qui a créé une micro-certification. Au Québec, l'école privée Cybelle propose une formation de 800 heures en ligne et a certifié plus de 80 tanadoulas depuis 2019. En tout, une dizaine de programmes au pays sont reconnus par l'Association canadienne des doulas de fin de vie. Les accompagnantes de fin de vie, ce sont surtout des femmes, sont formées pour décoder le jargon médical et soutenir la personne malade ainsi que son entourage. Elles peuvent fournir des informations tout au long du processus, discuter des dernières volontés et organiser des rituels significatifs aussi bien avant le décès qu'après. L'humain est au cœur de la pratique des tanadoulas. Elle réintègre la notion de vulnérabilité dans une société individualiste qui reçoit des soins médicaux sans pour autant obtenir l'accompagnement qui permet de mieux apprivoiser la maladie, observe Ariane Plaisance, une chercheuse québécoise indépendante en santé communautaire spécialisée en fin de vie. Cynthia Brunel, une tanadoula de Chambly, près de Montréal, a embrassé cette profession après avoir fait le deuil de sa propre mère, emportée par un mélanome métastatique en 2019 à tout juste 50 ans. Même si elle était entourée par ses proches, la jeune femme, alors âgée de 28 ans, a ressenti un vide indicible. Pour pouvoir amortir ce choc émotionnel, elle aurait voulu pouvoir compter sur une personne disponible quand elle en avait besoin, et non seulement pendant les heures d'ouverture d'un service de soutien offert à l'hôpital où sa mère s'est éteinte. Pour sa clientèle, elle crée désormais des souvenirs générateurs, guillemets, d'étoiles dans les yeux, fin des guillemets, affirme-t-elle. Par exemple, le rituel du souper de famille dominicale autour d'un bon plat de spaghettis, interrompu par la maladie d'une femme à la fois mère et grand-mère, a été reproduit aux soins palliatifs de l'hôpital en compagnie des proches pour qu'ils puissent revivre ce moment ensemble, raconte Cynthia Brunel. Une façon de les distraire du décompte fatal. Quand arrive le temps de choisir de faire appel à l'aide médicale à mourir, ces doulas de la mort simplifient les termes médicaux pour bien accompagner les malades et rassurer l'entourage. Citation: j'ai des demandes de gens qui apprennent que leur être cher a décidé d'une date pour recevoir l'aide médicale à mourir et qui ne comprennent pas trop la décision. Ils ont besoin de savoir comment ça va se passer concrètement, explique Cynthia Brunel, fin de citation. Celle-ci souligne que les tanadoulas apaisent aussi les tensions qui polarisent les membres d'une famille aux croyances souvent éclectiques. Une attention que le personnel médical n'a pas nécessairement le temps d'accorder. Citation: on prend soin de ses familles, dit-elle, fin de citation. Et c'est la fin de ce texte titré « Penser les derniers jours », signé Caroline Samy Esfahani et publié dans l'Actualité, édition de septembre 2025.
L'accès à la justice s'effrite aussi pour la classe moyenne. Un texte de Valérie Black-Saint-Laurent et Maïka Pinchot-Joseph, paru le 2 mars 2026 dans Le Devoir. Ce segment représente une portion massive des justiciables qui naviguent seuls et mal informés. Un article récent paru dans Le Devoir met en lumière une réalité troublante: la pression croissante sur le régime d'aide juridique au Québec. Il faut le dire clairement, Bien que l'aide juridique joue un rôle essentiel dans notre démocratie, elle constitue souvent le dernier rempart entre un citoyen vulnérable et une injustice irréparable de naviguer dans un système juridique infiniment complexe. Mais si nous voulons avoir une conversation honnête sur l'accès à la justice, nous devons élargir le cadre d'analyse. La capacité de l'aide juridique est effectivement limitée, et les données le confirment. Dans les 12 derniers mois, Jurigo a reçu 52 778 demandes de mise en relation avec un avocat dans tous les domaines de droit confondus. Sur ces demandes, 11 266 ont été pour des avocats au privé qui accepteraient des mandats d'aide juridique, 12 513 pour des demandes en droit de la famille et 3 908 pour un avocat au privé acceptant des mandats d'aide juridique. Le taux d'acceptation de ces demandes de mise en relation par ces cabinets d'avocats exerçant en droit de la famille et prenant ce type de mandat était de 3,3% seulement. Le parcours du combattant de Mélanie décrit par la reporter est donc bien réel et demeure la réalité pour nombre de justiciables recherchant une représentation juridique couverte par l'aide juridique. On le constate chez Jurigo de façon quantitative, mais aussi qualitative. En effet, dans le cadre des consultations d'informations juridiques rendues par l'entremise du service de première ligne de Jurigo, de nombreux justiciables partagent leur frustration face à l'impossibilité de trouver une représentation légale. Pourtant, plusieurs témoignent avoir multiplié les démarches dans leur quête d'un avocat. Appels passés, messages vocaux laissés, courriels envoyés et demandes de référence faites auprès de leur communauté. Après des semaines, voire des mois de tentatives infructueuses, ils sont nombreux à confier avec émotion leur sentiment commun d'être laissés à eux-mêmes face à un système judiciaire complexe. Ils se désolent de ne pas avoir la chance de même parler à un avocat pour expliquer leur situation, se heurtant généralement à un silence assourdissant. Ils se disent inquiets de leur capacité à faire valoir correctement leurs droits, alors qu'ils doivent respecter des procédures qu'ils ne connaissent pas et débattre de notions juridiques qu'ils doivent découvrir par eux-mêmes grâce à des ressources disponibles en ligne. Il demeure quand même important de noter qu'en grande majorité, les avocats veulent desservir davantage de clientèle. Cependant, la rémunération actuelle en aide juridique au Québec est largement reconnue comme étant insuffisante pour refléter la complexité des dossiers et la charge administrative imposée aux avocats. Pour illustrer ce point, un avocat au Québec qui accepte des dossiers litigieux en droit de la famille peut s'attendre à recevoir un paiement d'environ 1 500 pour un dossier ayant nécessité 4 audiences au tribunal, une ordonnance de sauvegarde et 30 heures de préparation. S'il trouve ce paiement déraisonnable, il peut déposer une demande de considération spéciale à la Commission des services juridiques, le tout évidemment non rémunéré pour l'ensemble du travail administratif concernant la facturation. Il demeure toutefois important de noter que parler de rémunération sans parler des conditions d'exercice des avocats en cabinet privé, c'est avoir une vision incomplète des enjeux. Un cabinet privé assume notamment les loyers commerciaux et les dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement du cabinet, les cotisations et assurances professionnelles, les salaires du personnel, les frais de formation continue. Un tarif d'aide juridique qui ne couvre donc pas ces réalités crée un dilemme économique et moral, soit celui d'accepter des dossiers à perte ou tout simplement de refuser d'en prendre en charge. Si l'on veut donc plus d'avocats en cabinet privé acceptant des mandats d'aide juridique, il faut que la rémunération fasse sens économiquement. Si l'on veut élargir encore davantage la réflexion sur l'accès à la justice, il faut aussi considérer l'angle mort qu'est la classe moyenne. On met souvent l'accent, et avec raison, sur les personnes vulnérables, et il faut continuer de le faire. mais l'inaccessibilité des services juridiques impacte la classe moyenne de façon importante également. Les seuils d'admissibilité à l'aide juridique sont cruellement bas et des milliers de Québécois sont non admissibles à l'aide juridique, mais n'ont pas non plus les moyens réalistes de payer les honoraires d'avocats. Ce segment, le citoyen moyen, est largement absent du débat public et, pourtant, il représente une portion massive des justiciables qui naviguent seuls, mal informés ou abandonnent leur recours faute de moyens financiers pour assurer une représentation adéquate. Outre les contraintes financières, le manque criant d'avocats dans les régions plus éloignées de la province crée un problème d'accessibilité juridique en lui-même. Le barreau du Québec, conscient de ce problème, a même lancé une campagne pour inciter les jeunes avocats à choisir un stage en région. Pour quantifier cette problématique, sur les 52 778 demandes reçues par Jurigo au Québec dans les 12 derniers mois, 30 345 visaient des mises en relation avec des cabinets privés. Dans la région de Montréal, le taux d'acceptation de ces demandes par les cabinets était de 40,91 %, tandis qu'en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, il était de 16,43 %. La solution à l'accessibilité juridique au Québec est multifactorielle. Oui, une augmentation de la représentation passe par une révision des seuils d'admissibilité et de la tarification d'aide juridique, mais elle passe aussi par une modernisation de notre système de justice. La numérisation de notre système juridique, le redéploiement des audiences virtuelles à la Cour et l'investissement dans l'infrastructure judiciaire de façon globale sont des éléments d'une importance capitale pour remédier à l'effritement du système actuel. L'utilisation de la technologie réduit les déplacements et augmente géographiquement la couverture juridique, permet des économies de temps et, ultimement, une économie de coûts pour tous. L'accès à la justice doit fonctionner pour les plus vulnérables, certes, mais une réflexion sur l'accessibilité juridique plus largement demeure nécessaire. Un revenu trop bas ne devrait pas être un frein à une représentation juridique, mais un salaire moyen non plus. C'était « L'accès à la justice s'effrite aussi pour la classe moyenne ». Un texte de Valérie Black-Saint-Laurent et Maïka Pinchot-Joseph, paru le 2 mars 2026 dans Le Devoir.